Amis d'Oradio Occitanie de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, je vais revenir sur cette revue de poésie vive, Nouveau Délit, qui publie son numéro 58, le numéro d'octobre 2017. Numéro que je vous invite à vous procurer, à lire, car il est, comme d'ailleurs les numéros précédents, tout à fait excellent. Si ce n'est qu'il est tout à fait original par rapport au numéro précédent, puisque d'abord l'éditorial n'est pas signé de Cathy Garcia, qui est l'animatrice de cette revue, mais de Laurent Bouisset, qui réside à Marseille et qui a réalisé ce numéro sur la poésie guatémaltèque. Donc c'est un numéro bilingue, donc espagnol et français, avec Regina José Galindo, Luis Carlos Pineda, Julio Serrano Echeverría et Bania Vargas. Et puis une illustratrice, Annabelle Serna Montoya, qui est née au Mexique et qui habite également Marseille, et qui nous donne là des dessins, des illustrations vraiment qui sont frappantes, absolument remarquables. Alors je vous invite à regarder ceci, le sommaire, et des exemples de ces illustrations dont je parle sont en ligne sur notre site les-poètes.fr. Je vais vous lire juste un extrait de Bania Vargas. Bania Vargas, pour lequel il y a une photographie, c'est la photographie de sa grand-mère, et c'est d'ailleurs un agrandissement de cette photographie que l'on voit sur la couverture de ce numéro 58 de Nouveau Délit. Voici la photo du jour où la grand-mère a vu apparaître de la peur dans son regard. Elle a compris qu'il fallait commencer à faire ses adieux. Elle a mis plus de temps que d'habitude à choisir ses vêtements. Elle s'est dessinée, le sourire de manière appuyée. Elle est sortie, elle a dansé, elle s'est rappelée sans tristesse sa jeunesse perdue. Elle n'en a fait qu'à sa tête, elle les a amusées. Elle fut la seule à reconnaître à cet instant la gamine qu'elle avait été et qui marchait dans l'autre sens maintenant, de retour vers le rien. Voilà, c'était un exemple. Donc je vous invite à vous procurer ce numéro de la revue Nouveau Délit. Le numéro vaut 6 euros et 1,50 € de port. Et puis l'abonnement pour 4 numéros et de 28 euros, le tout à adresser à l'association Nouveau Délit. Association Nouveau Délit, les tout, L-E-T-O-U. 46 330 Saint-Cyr-la-Popie, là où était André Breton, Nouveau Délit, revue de poésie vive. Voilà. Alors, également, les annonces. Tout d'abord, les éditions Artege. Alors, c'est des éditions à découvrir, parce que il y a vraiment une mise en page qui est très agréable. Ce sont des livres qui sont terriblement bien conçus, terriblement agréables à lire, et qui nous donnent des textes, voici, textes rassemblés et présentés par Françoise Clostre, La vie de Marie à travers les poètes. Alors Françoise Clostre, je crois qu'elle avait fait auparavant La vie de Jésus à travers les poètes, il me semble. Et j'avoue que c'est extraordinairement intéressant d'avoir fait ce rassemblement qui a l'air anodin comme ça, mais qui a dû demander quand même pas mal de travail pour arriver à avoir cette recension dans un format qui est un format très agréable, je le redis encore, pour un prix de 11,90 €. Françoise Clostre, La vie de Marie à travers les poètes. Alors, on va parler, si vous voulez bien, du premier, c'est-à-dire de Paul Verlaine. Paul Verlaine, qui laisse une œuvre poétique importante, empreinte de nostalgie et de musicalité. Sensible et tourmenté, il eut une liaison, elle, mouvementée, avec le jeune poète Rimbaud. Après lui avoir tiré dessus, il fut emprisonné. Cet épisode douloureux le ramena à la religion, qui lui inspira de beaux poèmes, rassemblés notamment dans le recueil Sagesse. Voilà ce que nous dit Françoise Clostre au sujet de Verlaine. Et elle ajoute, le pape Pie XI, en 1854, a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception, titre, l'Immaculée Conception, titre du poème de Paul Verlaine. L'Immaculée Conception, qu'il ne faut pas confondre avec la conception virginale de Jésus par Marie, signifie que la Vierge Marie est née préservée du péché originel en vertu d'une grâce exceptionnelle. Ce poème narratif retrace, Verlaine, hein, retrace la vie de Marie, fille d'Anne et Joachim, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, en passant par son enfance, qui se serait passée dans le temple, comme le raconte le protévangile de Jacques. Immaculée Conception de Paul Verlaine. Vous fûtes conçue immaculée. Ainsi l'Église l'a constaté pour faire notre âme consolée et notre foi plus fort conseillée et notre esprit plus ferme et bandé. La raison veut ce dogme et l'assume. La charité l'embrasse et s'y tient et Satan grince et l'enfer écume et hurle. L'Ève prédite vient dont le serpent saura l'amertume. Sous la tutelle et dans l'onction de votre chaste et sainte mère Anne, vous grandissez en perfection jusqu'à votre présentation au temple saint, loin du bruit profane, du monde vain que fuira Jésus, et comme lui, tout au pauvre monde. Vous atteignez dans de pieux uses l'époque où, dans sa pitié profonde, Dieu veut que de vous sorte Jésus, l'ange qui vous salua, la mère du Rédempteur que Dieu nous donnait, ne troubla pas votre candeur fière, qui dit comme Dieu de la lumière, ce que vous m'annoncez me soit fait. Et tout le temps que vivra le Maître, vous le passerez obscurément, sans rien vouloir savoir ou connaître, que de l'aimer comme il daigne l'être, jusqu'à sa mort, prise saintement. Aussi, quand vous-même rendez l'âme, pendant à votre conception immaculée, un décret proclame, pour vous la tombe, un séjour infâme, vous soustrait à la corruption et vous enlève au séjour de la gloire d'où vous régnez sur l'ange et sur nous, participant à toute l'histoire de notre vie intime et de tous les hauts débats de la grande histoire. Paul Verlaine, donc, dans ce très beau livre, très bien illustré également, une très belle couverture, des textes rassemblés et présentés par Françoise Clostre, la vie de Marie à travers les poètes. Hein, les poètes de tous les siècles ont chanté la Vierge Marie et ce choix d'une vingtaine de poèmes permet de suivre la vie de la Mère de Jésus avec émotion, passion, selon leurs auteurs, qu'ils soient connus pour leur foi religieuse ou moins attendus dans un recueil dédié à la Vierge Marie. C'est ainsi que trouvé dans ce recueil, Verlaine, Émile Verhaeren, Paul Claudel, Max Jacob, Alphonse Daudet, Francis Jammes, Apollinaire et Rimbaud, et bien d'autres, qui évoquent en toute liberté la vie de la Vierge Marie, de sa conception à son Assomption. Quant à Françoise Clostre, elle est formatrice en français, elle est l'auteur de plusieurs livres autour de la Bible, 30 chefs-d'œuvre qui racontent Jésus, c'est paru chez Bayard, 30 chefs-d'œuvre qui racontent la Bible, toujours chez Bayard, sans laver les mains et autres expressions bibliques, c'est chez Attier Bécherel. Et puis Cuisine de la Bible, même, elle est allée voir comment on faisait la cuisine à cette époque-là. Cuisine de la Bible, c'est publié à Télémaque. Elle a également publié dans la même collection La vie de Jésus, donc dans cette collection des éditions Artege, La vie de Jésus à travers les poètes, comme je vous le disais au début. Voilà, donc un livre tout à fait intéressant, original, à mettre dans votre bibliothèque. Et puis, encore une annonce. Toulouse, capitale de l'aéronautique, a vu ici, dans ce quartier qu'on appelle le quartier de Montaudran, l'aérodrome, où démarrait l'épopée de l'aviation civile. Et donc, un des personnages clés de notre ville, qui a habité notre ville et qui a marqué cette ville, c'est bien entendu Antoine de Saint-Exupéry. Alors il y a un très beau livre de Jean-Claude Perrier, Les Mystères de Saint-Exupéry, c'est une enquête littéraire qui est publiée par La Table Ronde dans un format de poche, je tiens à le préciser, donc tout très accessible. L'ensemble du livre est repris dans un format de poche par La Table Ronde, c'est une initiative vraiment très louable, puisque le livre ne vous coûtera que 7,10 €. Alors de quoi s'agit-il? L'éditeur nous dit ceci. Nombreux sont les lecteurs du Petit Prince, mais la vie et la personnalité de son auteur demeurent pleines d'obscurité. Jean-Claude Perrier raconte son enquête menée au travers des mythifications et mystifications biographiques qui entourent Antoine de Saint-Exupéry. Au hasard de rencontres et de découvertes, le critique se fait archéologue littéraire, recompose à l'instar d'une mosaïque le portrait de l'écrivain, s'emploie à réduire les zones d'ombre qui parsèment sa vie. Des histoires d'amour du poète à son décès dans des circonstances longtemps inexpliquées, en passant par son opposition au gaullisme et par sa carrière d'aviateur, ainsi que par la genèse du Petit Prince, ce récit ponctué de documents inédits se situe à mi-chemin entre l'essai et la biographie et se lit en réalité comme un roman. Je crois que c'est le plus important, c'est-à-dire il n'y a rien de fastidieux, d'ennuyeux. Au contraire, dans ce livre, cette enquête littéraire sur Antoine de Saint-Exupéry, qui est en fait un roman, parce que je crois que la vie quand même de Saint-Exupéry est une vie ô combien romanesque. Quant à Jean-Claude Perrier, c'est un journaliste littéraire, il est l'auteur d'une quarantaine de livres, des romans, des essais, également des livres de documents, dont, je cite quelques titres, André Gide ou La Tentation Nomade, c'est paru chez Flammarion en 2011, André Malraux et La Reine de Saba, aux éditions du Cerf en 2016, et puis Les Mystères de Saint-Exupéry, dont je vous parle, a reçu en 2010 le prix Louis Barthou de l'Académie française. Et dans la même collection, d'ailleurs, cette collection de livres de poche des éditions La Table Ronde, vous trouverez Nouvelle Vague et Petite Mythologie du Havane dans un monde trop fade. Voilà, Jean-Claude Perrier, Les Mystères de Saint-Exupéry. Peut-être aurons-nous l'occasion de revenir lors d'une émission plus spécialement consacrée à Saint-Exupéry, mais je vous incite à faire la lecture de ce livre parce que la vie de Saint-Exupéry est vraiment passionnante et c'est très bien écrit. Voilà. Et puis, je voudrais signaler pour la deuxième fois un livre de Jacques Ancet. Jacques Ancet, donc, ce grand poète, traducteur, quelque chose comme un cri, tweet, c'est dans la collection In Extenso. Jacques Ancet, donc quelque chose comme un cri. Alors, au moment où le tweet est devenu, depuis l'ère Trump qui commence, les politiques se sont mis d'une façon intensive, pour ne pas dire plus, au tweet, eh bien, ces tweets font leur apparition en poésie, donc, et pas de façon anodine, puisque c'est un de nos plus grands poètes, Jacques Ancet, qui écrit quelque chose comme un cri, qui écrit donc des tweets, des poèmes en forme de tweets. Commencer, finir, sont traversés de vent. Rien ne commence, rien ne finit, tout continue. Voilà un exemple d'un tweet de Jacques Ancet. J'ai mal, dis-tu, j'ai mal. Les doigts se tendent, la peau lui. Que faire pour t'aider? Que faire? Un oiseau tombe. Alors voici ce qu'il dit, Jacques Ancet. Dès le début, mes livres ont été traversés par un dialogue entre poèmes longs et poèmes brefs. Les fragments qui composent le présent recueil ont été écrits sous la contrainte, non pas métrique ou formelle de mes textes précédents, mais sous celle numérique au double sens du tweet, 140 signes. Alors je crois que, il me semble, je ne suis pas du tout dans cet univers, j'ai jamais tweeté de ma vie, mais il me semble que ça a été augmenté. Le haïku informatique est né voici quelques années de la mutation technologique que nous vivons et n'a pas fini de porter ses fruits. Pour moi, il y avait là une autre manière de donner forme à ce qu'a toujours été mon écriture, la pratique du journal, au sens où je n'ai cessé d'écrire le jour, le mystère du jour. Voilà, Jacques Ancet, donc une démarche qui s'inscrit, comme il le dit, dans cette habitude littéraire des plus grands, c'est-à-dire d'écrire un journal. J'ai lu il y a peu de temps de Dominique Bou, dans un livre qui s'appelle Le Secret, son journal préalable, et j'avoue que c'est un genre à part entière qui est tout à fait fascinant. Je dis bleu, je dis noir, une poire tombe, pourquoi ne pas dire jaune? Je dis les couleurs que j'entends, elles ne sont pas celles que je vois. Je pensais. Parfois tout s'arrête, la vitre, le chat, la tasse, la main, le jour, tout brille d'une lueur brève, puis s'éteint, tout continue. Voilà. Nous en avions déjà parlé, mais ça fait plaisir, donc que je rappelle cette publication des éditions RS, collection Po et Psy, in extenso, avec des dessins de Daniel Desnoux, et une collection qui est dirigée par Daniel Faugeras, pardon, excusez-moi. Voilà, j'espère que nous aurons le plaisir de faire une émission avec, ou en tout cas sur Jacques Ancet prochainement. Voilà pour les annonces. Je voudrais maintenant, il nous reste quand même pas mal de temps, réparer peut-être... La dernière fois, nous avons réparé une de nos oublis en 2015. William Cliff avait publié Amour perdu et nous en avons parlé 2 ans après. Mais en poésie, le temps en définitive est aboli. Un poème est intemporel. Il n'y a pas de mode. Bien sûr, les époques se suivent et les styles changent, mais ce qui est universellement senti le sera, quelle que soit l'époque. Voilà. Donc, suivre l'actualité en poésie, oui, c'est une chose que l'on peut faire, mais d'abord, on s'y éreinterait tellement cette actualité, contrairement à ce que pensent les gens, est riche. Et pas que seulement de la poésie moyenne, disons médiocre, mais non, une très bonne poésie, paraît, je dirais, très souvent. Il y a de très bonnes publications, il y a de très bons poètes en France et ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui donc, je vais parler d'un de nos plus grands poètes, en tout cas un des poètes qui, moi, m'a... certainement le plus marqué depuis les années 1960, que je suis, je dirais presque avidement, toutes les publications. Et je vais revenir sur une publication ancienne. Nous parlerons plus tard de sa dernière publication, par exemple, et de l'ensemble de cette œuvre, qui est une œuvre impressionnante. Il s'agit de Franck Venaille. Franck Venaille. Franck Venaille, qui est né en 1936 à Paris, et qui est une des voix majeures, sans aucun doute, de notre poésie. Et même, je pense, sur le plan de la poésie mondiale. Franck Venaille, en 2009, il a reçu le prix Robert Ganzo et le prix Alain Bosquet pour Ça, c'est le nom du recueil, Ça. C'est dit A, qui avait été publié au Mercure de France. Et puis en 2011, il a eu le Grand Prix de poésie de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Bon, il était temps. Je voudrais ce soir vous parler simplement d'un seul des livres de Franck Venaille que nous n'avions pas signalé. C'est la bataille des éperons d'or, ou si nous l'avons signalé, nous l'avons fait vraiment très vite. Alors, la bataille des éperons d'or, c'est dans la collection Poésie du Mercure de France, ça parut en 2014. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Chaque jour, je parcours des distances infinies qui me font traverser les anciennes frontières. Mon but, aller voir comment fonctionne le monde. J'en reviens à chaque fois brisé. L'état de guerre n'en finit pas. À terre les corps encore, copeaux de chair, lourds sacs, déserteurs aux membres là, alors que du ciel le soleil noir, le soleil, aveuglé, tente de s'extirper. Tremblement. La consigne est toujours la même. Pas de prisonniers. Alors, le glaive. Mais que ferai-je de ma vie lorsqu'il sera devenu noir de sang? Dois-je l'avouer? Je suis désespéré, me retrouve quoi? Enfant? Que s'est-il passé? Autrefois que je n'ai pas compris, jamais admis, pourquoi ce sang? Le rouge, couleur du combat, mené contre les forces du malin. Mais que les mots parviennent jusqu'à moi, ils deviendront nos alliés, nous dit Franck Venaille. Alors Franck Venaille a choisi de nous emmener loin dans le temps et loin dans l'espace pour nous parler d'un sujet qui le hante depuis longtemps, c'est donc la bataille des éperons d'or qui est pleine encore des images de la guerre, comme l'était son précédent recueil, s'appelait Chaos. Ça est, c'est-à-dire, de la guerre vécue, celle d'Algérie. La guerre d'Algérie qui, véritablement, a terriblement marqué quand même les consciences de cette génération, que ce soit d'un côté de la rive à la Méditerranée ou que de l'autre. J'étais hier soir à la soirée poésie de ces journées culturelles franco-algériennes où il y avait Hamid Tibouchi en particulier qui nous a lu des poèmes de son, il parle de son enfance en Kabylie où il a, les soldats sont entrés avec fracas dans sa maison et où il a vécu quand même son enfance dans cette atmosphère terrible de la guerre. Et Franck Venaille, lui, était de l'autre côté, bien sûr, soldat français. Alors, sous les variations des vers et de la prose, dans un style intact, Franck Venaille donne à entendre un tragique sourd et continu que viennent illuminer par intermittence des éclairs de beauté foudroyants. Malgré son allure martiale, chevaleresque, épique, ce titre est à prendre avec toute la suspicion ironique nécessaire. Cette bataille, dite aussi de Courtrai, a eu lieu en 1362 entre l'armée de Philippe le Bel et les rebelles flamands. Déroute totale des Français, dont les chevaliers, stupidement embourbés avec leurs montures dans les marécages, se sont fait exterminer par les fantassins flamands qui leur ôtaient leur éperon doré en guise de trophée. Cet événement historique n'a qu'un rôle marginal dans le livre pour faire écho à la guerre d'Algérie qui, elle, hante. Même enlisement dans le bourbier, même défaite humiliante. Nous sommes tous des stratèges de chambre froide. Sur un mot de Francesque Noir, un pecnot local, bravo homme sans doute, va d'un corps à l'autre pour rigoler, couper systématiquement les moustaches de l'élite de la chevalerie française. Tout comme les drapiers soldats flamands collectaient les éperons. Aucun épique guerrier. Les souvenirs du poète nous entronnent plutôt du côté de l'hôpital avec ses blessés qui n'ont plus de bras. Il en reste quelque chose qui ressemble à un corps. Venaille ne montre pas les combats, mais leurs effets désastreux. Face à l'absurdité et l'horreur grandit, l'envie de suicide ou de désertion lorsque le train vous amène en permission. Cette guerre semble une immense vague de bêtises, mortifères et sans gloire. La quincaillerie des médaillés à large poitrine de bœuf, monstres divers, à la foire de guerre exposée. La guerre est faite par ceux qui n'en veulent pas, et ceux qui la veulent ne la font pas. Marraine de guerre, dame de la Croix-Rouge et des comités de ceci et cela, le soldat est engagé dans un conflit qui n'est pas le sien. Il fallait continuer à se battre pour demeurer fidèle à la charte signée autrefois par nos pères. Guerre absurde, aux effets durables, obsédants, je ne pose que des questions nouvelles. Mais, ordre formel, enjamber les cadavres, 50 ans ont passé. Mais ce désir de dépasser le traumatisme se heurte au fait qu'il est ravivé par le monde tel qu'il tourne aujourd'hui. L'état de guerre n'en finit pas. L'état de guerre n'en finit pas. Toujours vrai. L'histoire ressemble à un vaste marécage où l'on s'enlise, on s'embourbe, on se perd. Et le paysage peut glisser à celui plat, saturé d'eau et de décomposition des tourbières des Hautes Fagnes. L'autre versant mémoriel du livre. Pour aller vite, l'enfance, la relation au père et à la figure maternelle sont aussi ambivalentes et complexes que ce paysage des hautes fragnes entre forêts tourbières à la fois aimées et inhospitaliers. « Je suis un ancien enfant, » dit Franck Venaille, « mais les souvenirs qui reviennent sont aussi bien ceux de l'enfance mauvaise et de la crainte enfantine des monstres que ceux du mien cheval de bois fabriqué par mon père ou du pain d'épices pour oiseaux. Passé contrasté donc, mais mélancolie tenace, même si pleurer semble trivial, lorsque la mort bouclera la boucle, elle permettra le retour vers ce pays comme un apaisement. Nous partirons, nous retrouverons nos lieux d'enfance, et la forêt des Hautes Fagnes demeurera ce qu'elle fut pour nous tous, le lieu de rencontre des cloches annonçant notre mort, avec celle du glas qui résonnera plus tard, afin que chacun se souvienne. » Alors, ce que je viens de lire, c'est la note de lecture d'un de nos plus grands poètes aussi, vivant, qui est Antoine Aymas. Antoine Aymas. Voilà. Je ne peux pas, évidemment, le citer en entier, cette note de lecture, mais elle est vraiment exceptionnelle et elle dit bien ce que est ce livre, La bataille des éperons d'or, de ce génie qu'est Franck Venaille. Et je vais, dans le temps qui nous reste, vous lire dans la dernière partie du livre, dernière partie de ce livre. Scellée la vie, c'est mal. Sur les boulevards des bateleurs, en offre 13 à la douzaine. Monde, ô monde, que vous ai-je fait? Qu'ai-je dit qui vous ai blessé? La réponse se fait attendre, la réponse. Mal et encore mal. la vie d'un homme se fait attendre. Dehors, la nudité d'un arbre devient obscène. Et je trouve cela mal, c'est vrai, je le juge ainsi. Être sans cesse sur la scène du monde pour le tenir en haleine. La douleur très vite se propage et touche les plus fragiles, les plus aimables pourtant. Je répète alors, c'est laid, l'histoire sanglante de toute vie. Un jour, j'ai vu les arbres se congratuler, s'offrir des fleurs, se réunir en une sorte de fête galante, mais triste de gondoles élégantes. Qui est vraiment cet homme? Avec ses plantes jaunies à varier de gens, l'herbe canaille empêche le marcheur de progresser, ses mains tenant aux arbres de s'exprimer, je donne un exemple. Si l'on part pour les tourbières, on risque l'enlisement. Alors la peur très vite se propage. Elle rit. Elle a droit de transformer son rouge à lèvres si rouge en symbole sexuel. Cela me plaît beaucoup lors de la bataille de la langue. L'un de ces jours premiers de novembre où l'on se congratule d'être encore vivant. L'heure également de la mise au point. Celle-ci d'abord. Dehors nos pères, dehors. Ils ne revenaient plus jamais dans nos maisons. Vous partirez aussi blessés que le furent durant vos règnes, vos fils, dans les faubourgs des capitales, attendant de vous votre bénédiction. Ne revenez plus jamais nous vendre le bois de cet hiver humide. Je reprends, plus jamais. Franck Venaille. Stop! Je n'ai jamais songé faire carrière. Père, vous le savez, je me souviens d'avoir eu 12 ans. Vous m'interdisiez la fréquentation du bar d'Oxy. Alors je partais avec grand-papa et ses gens couper des stères, faire des fagots, abattre les arbres aux branches malades, ramener du petit bois que l'on brûlerait le soir même. Stop ! Tandis que dans son écurie, crie. Notre lourd cheval de trait s'allonge pour me rêver des temps anciens. D'après l'agence de presse belga, correspondance spéciale. C'est alors qu'il comprit ce qu'était vraiment la maladie. Le statut d'homme richement blessé, les bateaux à quai, mais où est la mer? Les festins fournis en foule, il fallait faire face, mais à qui? Dans quel but? On lui avait appris l'essentiel, par exemple, sourire, sur la photo prise par les constructeurs de la sinistre ligne Maurice. Mais je préfère demeurer ici. Voici ce qu'il répondait à ses propres tentateurs, à leurs offres très spéciales. Jamais de contrat. Sa gloire, combien personnelle, se nommait poésie. C'est un mot qui ne mérite ni la dévotion ni le rejet. Il fallait plutôt voir cela comme une affiche collée sur un mur d'une de ces nombreuses et quelle faste maisons, oh château. Il était également du côté des mornés, ceux qui avaient renoncé dès le premier jour. Il fallait qu'il soit vigilant, sur ses gardes. En un mot, qu'il fasse gaffe. Il le fallait. Il avait traversé fumées et feux. Il entendait encore le médecin lui dire qu'il ne s'était peut-être pas assez protégé autrefois. Il lui restait le bois pourri, l'humidité du sol, la terre et son silence d'éternité. Oui, c'était bien là, son pays. Alors, on fit venir le bataillon des sans-soucis. C'est bien de vous, femmes d'entre les femmes, dont nous avons besoin. Il nous faut celles qui savent manier la truelle, la scie et le couteau. Ainsi les journées lentement s'étiraient. Elles s'étiraient le jour dans sa totalité, puis, à son tour, la nuit s'étirait. La grande salle du bar d'Oxy se vida, respectant les articles de la loi, à une sorte de détresse retenue, indispensable. Les soldats, c'est aussi pour les protéger qu'ainsi j'agissais. Méfiance, ténacité, retrouver l'odeur de l'origine, eau chaude dans l'écurie, leur parler. Ici, les chevaux ne combattent pas, mais ce sont eux, les gardiens du temple. C'était un peu la fin d'une guerre qui jamais n'aurait commencé. J'avais un coup de résine dans la bouche, la résine et l'amertume font bon ménage, n'est-ce pas ? J'attendais que les dés tombent du bon côté. Le mien, une forêt noire sous nos yeux, se transformait en un univers bleu, pin, hêtre et chêne. Comme cela fatigue, ces changements. La solitude des hautes fagnes, ici, prenait tout son sens, mais chacun songeait à cet ermite vivant des faveurs célestes à quelques lieues d'ici. Pour le reste, il fallait hardiment pénétrer à l'intérieur d'arbres rendus à leur solitude d'antan, couchés par le souffle divin, brisés comme lustre de Bruges, mais debout à jamais. Cette fatigue animale, d'où venait-elle? Et dans quelle langue l'exprimer? Vous me faites rire lorsque je lis votre petite Bible à l'usage des familles pieuses. Un fait est là. Nous partirons. Nous retrouverons nos lieux d'enfance. Et la forêt des hautes fagnes demeurera ce qu'elle fut pour nous tous. Le lieu de rencontre des cloches annonçant notre mort avec celle du glas qui résonnera plus tard afin que chacun se souvienne. Ces femmes strictes qui vont, viennent, sur les pavés de la solitude, oh combien! Elles portent les robes des autres, celles qui marchent sous le poids de la vie équivoque, la nuit faisane, la nuit où brûlent les feux de bois. Nous ne serons pas brûlées vives. D'ailleurs, il n'y a plus aucun corps à livrer à la flamme. J'habitais une longue rue droite et désertique, d'où surgissait parfois un tramway qui avait son œil unique, semblait tanguer. C'était sa fonction. Et puis, les veuves des guerres, des tourbières, ne racontent pas leurs souffrances. Elles sortent d'un très étrange lieu d'échange, de rencontre où toutes les formes que prend la solitude retrouvent leur raison d'être, on dit « béguine ». Toutes témoignent de l'état des lieux avant et après la bataille qui occupa tant les hommes. Les soirs d'hiver, J'aimais traverser ce jardin, ce lieu de ferveur terrestre, maison de deux étages, peut-être moins, maison haut, maison sans été. J'avais jeté ma cotte de maille dans la lys. Lys aide le corps de la bien-aimée. Sur le chemin d'y mourir, avance tous ceux qui fuient l'invasion monstrueuse. Écoutez, écoutez-les, oh, ils reviennent. Écoutez-les chanter leurs hymnes. J'arrivais sur le lieu où déjà s'alignait ma division de chars. J'allais, en étais-je sûr, utiliser ma mitraillette MAT-49. Belle arme. Objet du froid qui donne la mort, avec une sorte de brûlure solaire propre aux pays qui ont su enjamber la mer. Mais c'est bien la guerre. Sommes-nous déjà entrés dans l'histoire? D'ici, on ne voit que cette brume qui semble vouloir cacher ce que les combats vont révéler. Là-bas, entouré d'arbres calcinés, brûle un tank. J'ai vu le KV Kortrijk jouer devant des tribunes pleines. Dans ce qui est devenu le stade des éperons, là où, dès mes 12 ans, j'allais me réfugier très haut, dans la tribune, afin de m'éloigner des ourvaris de la pelouse. Mais l'enfant craint surtout que l'on s'en prenne à qui? Au langage. Voilà pour les cadavres casqués, les soudars, et un pecnot local, brave homme sans doute, va d'un corps à l'autre pour rigoler. Couper systématiquement les moustaches de l'élite de la chevalerie française encore en vie. Ils n'ont plus de bras. Il en reste quelque chose qui ressemble à un corps. Poitrine défoncée. 1959. Troisième régiment d'infanterie coloniale, caporal, 1960. 14e bataillon de chasseurs alpins, caporal, chef. Les voici dénudés, ridicules, humiliés. Leur bannière, fleur de lysée, servant désormais à nettoyer les armes volées aux agonisants. Halte au feu. Nous sommes tous des stratèges de chambre froide. Qui parle ici? Que nous disent les drapiers? Métier flamand, présence namuroise. Cela arrive des îles, frisonne, alors que les neiges tombent sur ce qui fut la nudité des plaines. Victoire flamande de Courtrai. 1945. Le général George Smith Patton descend, saute de sa jeep, rappelant à ses officiers d'état-major, la bataille des éperons d'or, mais j'y étais. Il existait une grande part de non-dit en lui. Il en avait conscience. Cela reposait sur une sensibilité animale, pour le moins connaissant les vertiges nés de la fatigue. Un soudain souffle d'air chaud, borgne, pouvait le déstabiliser. Il redevenait l'enfant des hautes fagnes, fantassin parmi d'autres fantassins, tentant de répondre à la seule question qui vaille, « Qui suis-je ?» Il avait décidé seul du mouvement des marées. Il fut le maître des vagues et des tempêtes, celui qui, par obligation morale, se met à croire au Très-Haut. Qu'est-ce vraiment qu'une vie aimante, aimable? N'est-ce pas le contraire d'un Raoult proustien? Il lisait Ruechbrech. Il s'était engagé sur le chemin de perfection. Alors pourquoi cette disharmonie entre lui et les hommes? Il avait autrefois réfléchi à ce qu'il nommait la vie. En attendant, il préparait la suite d'un combat dans lequel, l'un après l'autre, les adversaires avaient cru pouvoir l'emporter. Seuls, les tourbières refusaient de quitter leur territoire, leur marécage, tout ce qui les liait encore à la vie primitive. Sors de ta nuit, camarade. Le vin est à boire. Sors maintenant, que le rossignol, toute plume en émoi, ne chante plus. Son chant était grave, son chant était triste, son chant annonçait ce qui se fera. Sors de ta nuit, camarade. Ton vin est bu. Les journaux du matin étaient remplis de questions auxquelles je ne savais pas répondre. Durant ce temps, le chant de l'oiseau ou de l'un de ses frères ne s'était pas modifié. Son intensité s'était même rapprochée géographiquement du fleuve. Sors de ta nuit, mon camarade. Du vin sec reste encore sur la table. Nos monstres avaient peur. Eh, cela grouillait de dessous la terre. Sors de ta nuit, camarade. Du vin t'attend. Il n'est que pour toi, parti à la recherche de ton identité scandaleuse. Nos monstres sont repus. Maintenant, ils somnolent. Enfant, j'avais mon pain d'épices pour oiseaux. Désormais, le jardin est vide. Même y pleurer semble trivial. À chaque aube de lever des couleurs, il faut les voir formant cercle, en une gestuelle où encens et odeur des sels se rejoignent pour rire du désastre gras. Les nuits de plein été, ils abordent les solitaires, cherchant à se faire aimer d'eux, avant le cri de couteau fatal. Ils ne sont ni mauvais, ni bons. Ils, simplement, existent. Ta gueule, Baudelaire, misérable travesti, tu soignes ton linge parce que l'on ne t'a pas soigné le sexe. D'où ces plaintes? Car dans le grand espace réservé aux tourbières, aux fagnes hautes, un homme gêne. Il en appelle à la douleur et cela forme comme une équipée sauvage. Où sont les monstres? Ceux du dessous, ceux qui s'allongent parmi les pierres tombales pour avoir la sensation de pardonner, c'est encore très chrétien. Où en es-tu, Baudelaire? Toi que je vis, gare du Nord, balbutiant, la canne accrochée à un bouton de ton habit, faudra-t-il que je vous le danse? Ainsi la vie prend sa forme définitive, loin de vous, éloigné de moi-même, lisant la vie Baudelaire aux bijoux précieux. Les bas-marées, on les devinait toujours plus loin, toujours éloignés de nous, toujours, comme s'ils n'étaient pas déjà enlisés jusqu'aux hanches, criant du fond de gorge. Pourquoi nous n'aimions pas l'idée de mourir? Cela occupe trop l'esprit. Alors léger, légèrement, avec légèreté, n'est-ce pas? Et pour finir, C'est alors que nous entendîmes la plainte d'un oiseau inconnu de moi. Que faisait-il là, esselé, souffrant peut-être? Que cherchait-il à me faire comprendre si ce n'est les raisons de ce désastre mental vers lequel ma vie m'entraîne? Il était temps de parler, d'évoquer l'âge petit d'autrefois par où j'étais passé avant de devenir l'homme que lentement j'ai appris à moins haïr. Regardez ces cendres sur les éperons d'or. Moi je ne vois qu'elles. Je n'entends plus que l'heure du meurtre. Je me souviens également de cette braise d'un rouge vif auprès de laquelle je me suis réfugié. Le monde est ingrat. Et alors? C'est bien de ce monde-là qui m'a fait vivre, non? Peu à peu, la forêt serre son étreinte. On pourrait croire que les arbres vont filtrer la lumière avec davantage de soin encore. C'est alors qu'une femme se lève et demande la parole. Je reconnus cette silhouette aperçue sur un quai de gare, celle qui, depuis tant d'années, de bouge en palace, me précède. Voilà ce qu'au cœur des hautes fagnes, elle dit. Je suis l'expression de la douleur. J'ai toujours pensé que c'était à vos côtés que je trouverais ma place. Franck Venaille, La bataille des éperons d'or, aux éditions Mercure de France. C'est un livre qui coûtera 12,90 € à lire absolument rien. Les chefs-d'œuvre de la poésie française, comme tout ce qu'a produit Franck Venaille. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie. Et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.